On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, on refait le match 18h30, 20h, toujours pas de multiplex ce soir, le football dans les stades toujours à l'arrêt, mais très importante actualité dans les coulisses, sommaire à venir bien évidemment, vous allez pouvoir vous en rendre compte dans un court instant, plaisir toujours intact à vous retrouver pour parler, échanger, débattre football chaque samedi soir avec une nouvelle pensée vraiment sincère. Pour les victimes du coronavirus, leur entourage également, d'énormes encouragements, remerciements au nom de RTL à tout le corps médical sans exception, répétons-le, du plus grand professeur à l'agent d'entretien de nos hôpitaux, de nos cliniques et de nos EHPAD. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre confinement, surtout si vous vous sentez seul, eh bien vous avez le compte Twitter @RTLFoot en même temps que vous écoutez l'émission et désormais comme samedi dernier pour le match rendu à Michel Hidalgo sur l'antenne, si vous souhaitez intervenir, laissez vos coordonnées en privé bien sûr, je répète en privé, attention, hein, sur le compte Twitter RTLFoot et on vous rappellera dans la foulée. À mes côtés, David Aiello, journaliste indépendant, bonsoir.
Bonsoir mon cher Christian.
Stéphane Powels, RTL TV 5 Monde, bonsoir.
Bonsoir mon cher Christian.
Éric Silvestro, service des sports RTL, présentateur d'Enfel Sport, chaque dimanche soir, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Philippe Sansfourche, chef de la rubrique Foot sur RTL, bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Sans oublier, car cette émission est devenue interactive, vous restez chez vous bien évidemment, vous participez à cette émission, vous allez sur les réseaux sociaux, vous composez le 3210, nous vous attendons pour faire le lien de cette interactivité. Baptiste Durieux, bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. A tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Alors, le sommaire jusqu'à 19h. Avec les auditeurs qui peuvent se joindre à nous, nous allons évoquer la mémoire de Pape Diouf, disparu cette semaine dans un hôpital de Dakar, sans oublier une figure historique également du Racing Club de Lens, Arnold Sovinski, tous les deux victimes du coronavirus. Question, Pape Diouf fait-il partie, messieurs, du top 3 des présidents de l'OM? Quant à Arnold Sovinski, qui n'a connu qu'un seul club à part Liévin, c'est tout début, êtes-vous nostalgique de ce football à l'ancienne? Ça nous occupera avec les auditeurs jusqu'à 19h. 19h, l'énorme dossier, l'actualité du jour, de la semaine. Le football français, stop ou encore? Et l'UEFA qui menace ceux qui voudraient arrêter le championnat est-elle dans le déni? Invité de On fait le match après 19h, Bernard Caillazzo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne. Fin d'émission, Benzema, Giroud, pourquoi tant d'aigreur? Neymar, Thiago Silva, pourquoi tant de provocations? Et toutes vos suggestions, bien évidemment, qui nous écoutez sur Twitter, @RTLFoot. Messieurs, Pape Diouf nous a quittés mardi dernier. Il n'avait que 68 ans, victime du coronavirus. Donc il s'est éteint à Dakar alors qu'il était sur le point d'être rapatrié en France. Président de l'OM de 2005 à 2009, le tout Marseille du football continue de pleurer cette belle personnalité du football africain. Avant la surprise, tout d'abord, votre Pape Diouf à vous, Philippe Sansfourche.
Bah, Pape Diouf, on l'apprendra à personne, c'était un homme de mots, un homme de lettres, un homme érudit, comme il y en a peu dans le football, parce que souvent le football ne laisse pas sa place à ces gens-là. Ils font un peu peur parfois les gens qui parlent trop bien dans le football, mais Pape Diouf, il avait à la fois cette humilité et cette capacité justement à ne jamais imposer ses connaissances. On en parlera tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui lisait énormément toute la nuit en fait. Il lisait jusqu'à 8h du matin, puis il dormait après dans la matinée. Et moi j'ai le souvenir évidemment, ce qui nous manquera toujours, c'est ces passes d'armes avec notamment Jean-Michel Aulas. Je me souviens qu'à l'époque, ici même, à RTL, on avait notre émission du soir avec Christophe Paco et on avait notre petite rubrique qui était ce qu'on appelait à l'époque le top mot, qui est le top d'éclat aujourd'hui. Et en fait, on était obligé de se forcer chaque semaine à faire sortir un peu Jean-Michel Aulas et Pape Diouf du top mot, parce que c'était tout le temps, en fait. J'ai en tête notamment Pape Diouf qui comparait Jean-Michel Aulas à un ballon de baudruche, en disant les ballons, ils gonflent, et puis un jour, ils explosent. Voilà, c'est une des déclarations qui me reviennent comme ça.
David Aiello, ton Pape Diouf à toi.
Mon Pape Diouf, non, bah, évidemment que la faconde de Pape Diouf pour rejoindre Philippe était quand même légendaire. Donc je ne vais pas insister là-dessus. Je vais parler quand même du précurseur qu'il a été quelque part, parce qu'il a été, en tout cas dans le football moderne, le premier président noir dans le football français. À ce jour, il a ouvert la voie, mais on pourrait dire qu'hélas, il reste le seul. Et je pense que voilà, ça dit également beaucoup de la dimension du personnage, de qui il était devenu, de la force également morale et intérieure qu'il fallait pour en arriver là. Il avait fait son chemin, parce qu'on rappelle que son parcours était quand même assez incroyable. Il avait commencé en travaillant à La Poste, puis après dans un petit journal La Marseillaise du côté de Marseille, bien sûr. Donc voilà, il avait fait son chemin petit à petit, et ça en disait long sur la force qui l'animait.
Éric Silvestro.
Ça me gêne presque de parler de moi alors qu'on parle de Pape Diouf, qui est un homme immense. Pour moi, Pape Diouf, c'est tout simplement mes débuts à la radio. Lui, c'est un homme lettré. Moi, je venais de la presse écrite, puisque je travaillais d'abord en presse écrite. Et en fait, quand j'ai débuté à la radio, ça a été à peu près le moment où Pape Diouf est devenu président de l'Olympique de Marseille. Donc, à ses lettres se sont ajoutés ses mots. Et moi, qui découvrais les métiers de la voix, puisque je n'y étais pas du tout venu auparavant, et bien voilà, c'est ça mon souvenir de Pape Diouf. C'est vraiment un homme qui a accompagné mes débuts à la radio. Et je me suis dit, forcément, quand quelqu'un parle aussi bien et qu'on en fait un métier de voix, et ben c'est ce qui me reste de Pape Diouf, c'est ses premières années de radio et ses saillies verbales, évidemment.
Stéphane Pouwels.
J'ai deux choses. J'ai eu la chance, et c'est vrai, comme Eric, de... je ne vais pas parler de moi, mais j'ai eu la chance d'avoir une émission radio sur notre chaîne belge, hein, Bell RTL. Et j'ai eu Pape Diouf pendant 2 heures quand il avait sorti son bouquin, rappelez-vous. Et je lui avais fait un petit cadeau. Éric Guéret était venu sur la... C'était une grande visite à l'antenne, quoi. Et donc, ils étaient très amis. Hein. Je pense que je n'ai rien inventé. Ils étaient très proches. D'ailleurs, Pape Diouf dit tout le temps, si on peut me donner le meilleur entraîneur du monde, je reprends Éric Guéret. Et il m'avait dit une phrase qui était très drôle, parce que donc, Guéret disait dans l'interview, dans cette émission, que Pape Diouf, c'était quand même un mec fort. Et que donc, il avait... Quand il tapait sur la table, enfin, il imposait quand même ses idées. Et moi, il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, monsieur, puisqu'il ne savait pas qui j'étais, hein, j'étais un petit animateur belge, il me dit, vous savez, monsieur, moi, je suis un peu comme le pec citron. Donc, tu sais, t'as Pape Diouf en face de toi qui avait tout le temps des phrases. Il dit, pardon, président, mais moi, je suis un peu comme le pec citron. Il me dit, quelques gouttes suffisent. Et bien, moi, il me dit, quelques mots suffisent pour pouvoir mettre les choses en place. Et j'avais beaucoup aimé cette anecdote. Ça m'a resté longtemps. Et la deuxième chose...
Et ces mots étaient souvent prononcés, enfin ces mots, ces phrases au subjonctif, ouais, de l'imparfait. Il adorait ça.
Ouais, ouais. Et alors, parce que je vous avais dû voir passer ça sur les réseaux sociaux. On a remis beaucoup de passages de ces interviews. Et moi, j'aime beaucoup, vous savez qu'il y a un mot que j'aime beaucoup dans la langue française, c'est le mot dignité. Et il disait un jour, lorsque son patron à l'OM, ça allait mal, il disait, il y a deux solutions. Où je lui dis merde, ou je reste digne. Et il disait, ma ligne de tir est d'aller le plus loin possible sur les projets, les objectifs avec mes convictions. Ça, ce sont les grands hommes qui disent ça. Et il dit, mon principe est de garder ma dignité, une manière de voir la vie. Ça, c'est Pape Diouf.
Homme lettré, homme cultivé, homme polyvalent. Après la publicité, la surprise. La surprise du chef pour rendre hommage à Pape Diouf, disparu cette semaine. À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h avec David Aiello, Stéphane Powell, Éric Silvestro, Philippe Sansfourche. La surprise, messieurs, votre Pape Diouf à vous, il va nous le donner également. C'est dans cette période de concorde et de bienveillance pour tout le monde, c'est d'accueillir une ancienne grande voix de RTL, correspondant mythique et historique à Marseille, mon ami Jean-Louis Pacul. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Bienvenue Jean-Louis.
Bonsoir
Jean-Louis. Paraissait... Bonsoir. Tout à fait naturel de t'entendre nous parler de Pape Diouf, car tu as évolué, Jean-Louis, dans son premier cercle avant qu'il devienne président de l'Olympique de Marseille, lorsque vous avez démarré dans le journalisme. On va évidemment égrener quelques anecdotes, et puis on va surtout répondre à la question également dont on fait le match, qui reste un débat. Est-ce qu'il il entre dans le top 3 des présidents de l'Olympique de Marseille? Mais Jean-Louis, s'il te plaît, ton Pape Diouf à toi.
Mon Pape Diouf, c'est un ami de presque 40 ans, puisqu'on s'est connu à Marseille en 1982. Moi, je sortais tout juste du QEJ, Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strasbourg, où j'avais obtenu mon diplôme. Et je suis revenu à Marseille, rapidement, je travaillais à l'époque à Radio France. Je commentais les matchs sur une autre antenne avec Jacques Vendroux et d'autres. Et donc, je croisais régulièrement Pape Diouf, qui était, lui, journaliste à la Marseillaise. Et tout de suite, on a senti qu'on était fait presque l'un pour l'autre. On partageait la même vision du football. la même rigueur dans la restitution des informations et les mêmes principes. Parce que Pape n'aimait pas le mot valeur, et moi non plus, parce que les valeurs, c'est comme à la bourse, ça monte, ça descend, mais les principes, c'est intangible, et nous avions les mêmes principes, et donc on s'est tout de suite très bien entendu, on est devenus des amis très intimes, tous les matchs de l'OM, bien sûr, les déplacements, on était tout le temps ensemble, au restaurant ensemble, on préparait nos matchs ensemble, on les débriefait après, et on avait la même vision et du football et de l'appétit pour contextualiser le football, le remettre dans son contexte social, économique, politique, culturel. Et tout de suite, ça nous a rapprochés. Et moi, j'avais tout de suite remarqué ce grand black très élégant. Il était à la Marseillaise à l'époque, mais il portait toujours cravate, pochette. Pourtant, je peux vous dire que les salaires à la Marseillaise n'étaient pas très élevés.
Journal d'obédience communiste, n'est-ce pas ?
Oui, journal d'obédience communiste, où il avait commencé à la pige, tout en étant postier. Il travaillait au tri de jour, à la poste, à côté de la gare Saint-Charles. Il avait commencé comme pigiste, et puis il avait été élevé, Pape Diouf, au miroir du football. Les anciens se souviennent de ce journal, proche du Parti communiste aussi, où de grandes, grandes plumes ont fait état de leur expertise, de leur connaissance footballistique, mais pas que. Et Pape avait été nourri, comme moi d'ailleurs, au miroir du football. Et donc, naturellement, nous sommes devenus des complices, des amis et finalement des frères.
Reste avec nous, Jean-Louis. Jean-Louis Pacul, ancien correspondant RTL à Marseille pendant de nombreuses années sur l'antenne de RTL. La philosophie, et non pas les valeurs, donc, mais les principes de Pape Diouf évoqués par Jean-Louis Pacul, c'était au micro de Marc-Olivier Fogiel.
Très tôt, j'ai compris, ou en tout cas j'ai essayé de savoir ce que je ne voulais pas, à défaut de savoir ce que je voulais. Mmh. Je crois que c'était une règle d'or chez moi. Et surtout le fait de respecter, d'abord d'avoir des convictions, ce qui me paraît essentiel. Les convictions vous permettent toujours d'aller le plus loin possible dans ce que vous souhaitez faire, et des principes. Mmh. Mais par principe, j'entends cette notion qui a une contrepartie nécessairement. Parce que quand un principe n'a pas de contrepartie, ça reste un préjugé. Et j'ai fonctionné un peu à sa conviction d'un côté et principe de l'autre.
Pape Diouf avec Marc-Olivier Fogiel, c'était en 2013. Alors c'est un débat, on fait le match chaque samedi soir, Jean-Louis Pacul avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche, David Alléo, Stéphane Powels et bien évidemment Baptiste Durieux pour les réseaux sociaux. Jean-Louis Pacul, est-ce que, à ton avis, Pape Diouf fait partie du top 3 des présidents de l'Olympique de Marseille ?
Ah oui, Marcel Leclerc, Bernard Tapie, Pape Diouf, incontestablement.
C'est ton tiercé.
Ah oui, c'est mon tiercé. J'hésite à le mettre dans l'ordre ou dans le désordre, mais c'est mon tiercé.
Alors, moi je veux bien, mais Pape Diouf, à la tête de l'OM, il n'a pas gagné grand-chose.
Il n'a rien gagné, vous allez me dire.
Il n'a strictement rien gagné.
Le fameux, il n'a rien gagné.
Mais, il fait deux finales de Coupe de France,
perdu.
2006.
Perdu.
La première contre le Paris Saint-Germain, la deuxième contre Sochaux,
très bien.
Au tir au but.
D'accord.
Grâce à toi, cher Christian Olivier, j'étais à ces deux finales. Il a aussi marqué l'histoire de Marseille. Alors c'est vrai qu'il n'a rien gagné. Mais par exemple...
Finale UEFA, 2015.
Finale UEFA.
Perdu.
Mais, il a osé rentrer en conflit ouvert avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Dans ce fameux match, souvenez-vous, c'était en 2006, quelques mois avant la finale de la Coupe de France, les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent accorder aux supporters marseillais une place dans une tribune surplombée par une tribune remplie de supporters parisiens. On se souvient à l'époque, les rapports n'étaient pas les meilleurs entre les deux clubs, entre les deux associations, les deux clubs de supporters, les supporters. Et Pape Diouf a dit, c'est inacceptable. Je n'enverrai pas mes supporters se faire canarder, parce que c'est ce qui aurait pu se passer.
Alors il n'envoie pas les supporters et il n'envoie pas l'équipe première également.
Et il envoie une équipe mixte, hein. Le règlement lui permettait. La réunion a duré toute la nuit. et j'avais des informations régulières avec José Anigo, avec Julien Fournier, qui est aujourd'hui à Nice. Ils décident d'envoyer une équipe mixte, comme le règlement le permet, 7 pros et des mômes du centre de formation, résultat 0-0. Et ce qu'il faut retenir, et c'est pour ça que même s'il n'a rien gagné, il est immensément populaire, immensément aimé par les supporters marseillais. L'OM était monté à Paris en train ce jour-là. Et au retour à la gare Saint-Charles, il y avait 7, 8, 10 000 supporters marseillais qui sont venus acclamer cette équipe mixte qui avait fait match nul avec le Paris Saint-Germain. Et surtout, Pape Diouf n'avait pas cédé au diktat, on peut l'appeler comme ça. Ça va faire du mal à Fifi Sanfourche.
Philippe Sanfourche va répondre parce que c'est un débat, Jean-Louis Pacule. Le diktat parisien, c'est scandaleux.
Au diktat des dirigeants parisiens.
Philippe Sanfourche,
le bus de l'OM avait été caillassé d'ailleurs.
On l'a bien entendu. Philippe.
Non, mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'histoire, quand il n'y a pas de trophée à dénombrer, on se rappelle des bons souvenirs. C'est vrai que ce n'est pas la période non plus la plus florissante pour l'armoire à trophée de l'Olympique de Marseille. Mais c'était autre chose, Pape Diouf. Et j'aimerais qu'on entende d'ailleurs un autre extrait, parce que dans ces années-là, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y avait ces fameuses passes d'armes avec Jean-Michel Aulas, qui, on se souvient, à cette époque-là, était au sommet de sa gloire. L'Olympique lyonnais venait de remporter 7 titres de champion de France. Et souvenez-vous, ce feuilleton Ben Arfa, avec le transfert d'Athènes Ben Arfa, l'Olympique de
Quelle
Marseille
histoire.
Qui annonce que ce transfert est validé. Jean-Michel Aulas dit non, il n'est pas valable. Ça se termine à la Ligue, c'est tranché par la Ligue et les deux hommes, Jean-Michel Aulas et Pape Diouf, sortent de la Ligue avec tous les micros et les caméras face à eux. Et là, Jean-Michel Aulas essaye d'enterrer la hache de guerre et vous allez entendre Pape Diouf en remet une petite couche.
Tout est régularisé, voilà.
C'est-à-dire ?
Ah ben ils vont vous expliquer, moi je fais pas de commentaires. Pape, venez m'aider parce que... voilà. Venez voir, Pape, parce que autrement on va pas faire de... Donc Athème va à Marseille, voilà, donc très bonne solution.
Ça a été très long quand même.
Oui, ça a été long, mais à l'arrivée je pense que le bon sens l'a emporté. C'est vrai que c'était un dossier a priori qui paraissait assez difficile, assez compliqué. Vous savez que quand la vanité des hommes... entre en ligne de compte, les choses deviennent évidemment compliquées. Et puis, bon, à un moment donné, je crois que entre gens intelligents et qui ont fait appel au bon sens, on est arrivé à ce qui était le plus souhaitable pour le football français et pour deux grands clubs comme l'OM et comme Lyon.
C'est joliment dit. Alors, le top 3, on le dit, c'est joliment dit, effectivement. Le top 3 des présidents de l'OM pour Pacule, c'est évidemment Tapie, Leclerc et Pape Diouf pour Stéphane Powels.
Mais j'ai forcément pas lutté contre M. Pacule, vu son expérience, mais moi j'ai juste envie de vous dire que, en tant que Belge, et ça, vous le savez bien, ma nationalité, ben, on a quand même eu Raymond Goutals qui a quand même marqué l'histoire. Et je pense que toujours les grands clubs réussissent quand il y a un duo qui fonctionne, c'est-à-dire président et entraîneur. Et je pense qu'on l'a vu, je ne suis pas sûr que les derniers duos à Marseille, ça a très très bien fonctionné. Je ne vais pas revenir de Bielsa et de Rudy Garcia et compagnie. Donc je pense qu'effectivement, Tapie, ça a fonctionné merveilleusement bien avec Raymond. Et je pense qu'il y a toute une histoire aussi pourquoi ça a fonctionné. Idem avec Pape Diouf. Je pense que Pape Diouf a fonctionné avec Guéretz parce qu'il y avait une main de fer dans un grand velours avec ce président qui était Pape Diouf. Hein, parce que sous ses airs de gentil, c'était certainement un monsieur très sympa, le peu que j'ai vu durant deux heures, mais un patron quand même, un leader. Mais Guéretz, moi qui, là, j'ai la chance de le connaître personnellement, Guéretz, il faut quand même le manager, hein. C'est pas facile.
Ah oui, non, mais cher ami, on parlait des présidents là.
Oui.
Je suis totalement d'accord avec vous sur le tandem Diouf-Guéretz, Tapie-Goethals, bien entendu.
David Aiello.
Je suis assez d'accord avec Jean-Louis pour dire que c'est compliqué d'établir un palmarès, c'est de comparer, déjà parce que les époques sont pas les mêmes, c'est pas le même football, c'est pas les mêmes moyens forcément. Néanmoins, moi ce qui m'interpelle quand même dans le parcours de Pape Diouf, c'est le fait qu'il était très régulier déjà avec l'OM. L'OM il avait réussi à installer l'OM en tête du classement. Et d'autre part, il a laissé quand même le club dans de très bons rails. La preuve, c'est que la saison suivante, ils ont remporté le titre qu'ils n'avaient pas gagné depuis 92. Donc déjà, ça c'est quand même un élément important. Et puis je suis obligé de le rappeler, l'aventure de Bernard Tapie s'est mal terminée à l'OM. Celle de Pape Diouf, encore une fois, il a installé pour moi l'OM dans la pérennité. Donc pour moi, Pape Diouf est tout en haut de la hiérarchie.
Éric Silvestro.
Ouais, je rebondis sur le titre de 2010. Le binôme Deschamps d'Acier doit quand même aussi pas mal de choses à Diouf des années précédentes. Il faut rappeler aussi qu'il n'avait pas demandé de rallonge budgétaire particulière lors de son mandat de président. Évidemment, on veut toujours des sous, mais peut-être n'en a moins réclamé que d'autres. Et puis quand on voit la façon dont les supporters le portent dans leur cœur alors qu'il n'a rien gagné, ça prouve quand même la grandeur de l'homme et la trace qu'il a laissée à l'Olympique de Marseille. Au-delà de, évidemment, nous, les médias, c'était un client merveilleux pour nous, donc on a une tendresse sans doute aussi un peu particulière parce que c'est le genre de client qu'on adore avoir au bout de notre micro ou au bout de notre enregistreur. Mais le fait qu'il n'ait rien gagné et que pourtant il soit dans les cœurs comme il est, pour moi, ça prouve justement la qualité la de l'homme était... en tant que président.
Et Hugo Hamelin, qui est à Marseille, me signalait ce matin que beaucoup d'initiatives individuelles avaient été prises au lendemain de l'annonce de sa disparition. Des banderoles, des drapeaux, qui a une énorme banderole en haut du virage nord avec l'inscription « Pape, ta maison est ici », de signer du virage nord. Donc je l'ai dit, des sauce winners qui ont fait pareil avec une banderole de plus de 100 mètres de long devant le Vélodrome avec les portraits de Michel Hidalgo et de Pape Diouf.
Et je voulais juste terminer sur le fait, c'est pas parce que Pape Diouf, avec justement ses costumes, cravates, ses pochettes toujours très élégants, comme l'a dit Jean-Louis, n'a pas plongé dans le Vieux-Port comme a pu le faire Leclerc, qu'il n'est pas populaire auprès justement des supporters de l'Olympique de Marseille.
Jean-Louis, on va te remercier d'être intervenu sur l'antenne de RTL.
Juste pour vous dire que moi, il faut pour les Marseillais, pour les supporters marseillais, Pape Diouf est un de leurs frères. C'est un petit noir qui est arrivé avec un sac en plastique à la main. Il est noir, il était musulman et il représentait l'archétype du môme qui arrive démuni à Marseille, qui fait une carrière comme journaliste, agent de joueur, dirigeant, magnifique, qui finit président de l'Olympique de Marseille. Et il y a les gens s'identifient totalement au parcours de Pape Diouf, c'est pour ça qu'il est aussi populaire, il a toujours respecté les supporters et ils le lui rendent bien. Et je peux vous dire qu'avec quelques amis, dont Jean Tigana, nous sommes en train de réfléchir à un hommage à rendre à Pape Diouf dès que le confinement sera terminé.
Merci.
À Marseille.
Ok, voilà. Merci Jean-Louis. Merci d'être intervenu sur l'antenne de RTL.
Salut,
on va vérifier avec les supporters. Florian nous attend après la page de publicité.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Avec l'hommage, on fait le match avec l'hommage à Pape Diouf en compagnie de David Aiello, Stéphane Powell, Cyril Silvestro, Philippe Sanfourche, Florian sur le 32-10, supporter de l'Olympique de Marseille. Bonsoir Florian.
Bonsoir Christian, bonsoir tout le monde.
Vous avez pu entendre tout ce qui s'est dit dans les 20 premières minutes d'émission concernant Pape Diouf.
J'ai tout entendu et il n'y a pas grand chose à rajouter, mais je vais quand même donner mon avis sur la présidence de Pape Diouf à l'OM.
Et on vous écoute.
Alors, moi, ce qui est ressorti, quand j'ai appris sa mort, évidemment, j'étais effondré, mais en faisant un peu le point, le premier truc qui est ressorti, c'est que malheureusement, il n'a pas gagné de titre avec l'OM.
Ce qu'on disait, effectivement.
Faut pas oublier qu'il a quand même ramené l'OM 3 saisons consécutives en Ligue des Champions. Et ça, personne n'a réussi à le faire en tant que président ou entraîneur, évidemment.
Mais deuxième en 2006-2007, troisième en 2007-2008 et deuxième en 2008-2009.
Vous, en tant que supporter de Marseille, vous êtes quand même bien d'accord, même si on rend hommage à Pape Diouf, que Bernard Tapie restera toujours dans le cœur des Marseillais le numéro un, ou bien Pape Diouf, pour vous, est au même niveau?
Ah non, pour moi, Bernard Tapie restera numéro 1, mais comme vous l'avez tous dit, Pape Diouf sera dans le top 3 des présidents marseillais.
C'est qui votre troisième alors?
Alors moi, le problème, c'est que je n'ai connu l'OM qu'à partir de Bernard Tapie, parce que ça fait 30 ans que je suis supporter marseillais. Donc forcément, quand on prend le palmarès de l'OM, Leclerc arrive dans ce tiercé.
Entre 65 et 72, il a monté l'OM de la deuxième division pour en faire.
C'était un grand président.
Ah bah oui.
Non, parce que moi vraiment, je ne connais pas assez pour en parler.
Ça s'est mal terminé. Doublé coupe championnat, une autre coupe de France, à l'époque de Scoblar, à l'époque de Magnusson, il fait venir les Stéphanois, Bosquier et Georges Carnus, vraiment grand président.
Et ça se passe pas bien?
À la fin, ça se passe pas bien parce que détournement d'argent pour relancer ses activités de presse.
D'accord.
Il est obligé de quitter le club. Et il est mort tragiquement dans un accident.
C'est une tradition marseillaise, bon, je fais ça un peu du lourd.
Florian, merci, on est un peu en retard. Un podcast de l'OM que vous préparez également, très régulièrement.
Tous les lundis, quand le championnat se joue, le podcast des Marseillais, disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify et j'en passe.
Voilà, un petit peu de publicité, c'était bien normal. Merci beaucoup.
Merci
Florian, très bonne soirée. Messieurs, avant les informations de 19h, je voudrais quand même qu'on dise un mot d'Arnold Sovinsky, qui lui aussi est décédé cette semaine à l'âge de 70 ans.
à cause du coronavirus également et malheureusement. Et lui, c'était une figure emblématique du Racing Club de Lens qu'il n'a jamais quitté. Il a démarré à Liévin, ensuite il est resté à Lens, a été un gardien de but. Il a joué 160 matchs environ, il a été entraîneur, il a remonté le Racing Club de Lens également du foot amateur pour l'emmener en première division. Il a perdu une Coupe de France en tant qu'entraîneur face à l'AS Saint-Etienne. Il a joué un match mythique en tant qu'entraîneur avec ses joueurs contre la Lazio de Rome, qualification 6-0. Ouais. 6-0. Ça, c'est du foot à l'ancienne. Est-ce que la question, je m'en souviens à peine même de vous l'avoir posée dans le sommet. Ah oui, c'était Szymański qui n'a connu qu'un seul club à part Liévin au tout début, puis le Racing Club de Lens. Êtes-vous nostalgique de ce football à l'ancienne?
Oui. Bon, en tant que ch'ti un peu de frontière, Daniel Leclerc, on va repenser à Daniel, quoi. Et lui faisait partie aussi, je pense, de la fin de ce football tradition. C'est vrai qu'à Lens, il y a eu régulièrement, d'ailleurs on le voit encore maintenant dans le staff technique, tu as régulièrement tout le temps des Lensois qui sont là. C'est une tradition du club et moi je suis très favorable à cela. Ça veut dire tradition dans les joueurs, les ex-joueurs, mais tradition dans ce qu'on impose dans les tribunes, sur le terrain et dans les VIP, parce qu'on ne parle jamais des VIP, mais à Lens, les VIP, c'est un petit peu à leur image, quoi. C'est la fête.
Les plus jeunes, ça vous parle?
Moi, honnêtement, je ne suis pas nostalgique parce que le monde évolue et aujourd'hui, on ne pourrait plus demander ça. Après, on peut être admiratif de quelqu'un qui a passé toute sa carrière dans le même club. Moi, j'ai grandi petit, vous le savez, sur la Côte d'Azur. Et Jean-Luc Ettori, pareil, a fait toute sa carrière de gardien de but. Lui, il a fait plus de 600 matchs.
Énorme.
602 avant que Landreau batte son record.
Mais c'était une autre époque. Non, je voyais arriver Jean-Luc Ettori dans le vieux stade Louis II avant les matchs avec sa deux chevaux.
Tout à fait.
Ah oui,
qui l'a toujours gardé d'ailleurs, sa deux chevaux. Claude Puel, lui, avait un utilitaire. Les deux ont gardé des voitures pas très bling-bling toute leur carrière. Mais voilà, il y en a très peu des joueurs qui font toute leur carrière dans le même club. Ça a quand même existé dans un football relativement récent, pas forcément dans le football d'il y a 50-60 ans. On peut être admiratif de ça, quelqu'un qui a les valeurs du club vraiment aux chevilles au corps. Après, être nostalgique, non. Aujourd'hui, c'est clairement plus possible.
Mais Eric toi qui es monégasque...
Il faut pas être nostalgique.
Toi qui es monégasque de cœur, et c'est pas...
C'est pas grave, tu sais que j'y suis passé aussi.
Juste pour te dire que Jean-Luc, après d'être joueur, il est entraîneur des gardiens. Oui. Il s'est occupé du recrutement, mais il n'a jamais été en face d'une puissance des supporters comme on peut être à Marseille, comme on peut être à Paris. Maintenant, dans le football moderne, bien sûr, c'est Monaco. C'est difficile, je pense, de pouvoir rester 50 ans dans un club tellement il y a des facteurs de pognon, de tout ça.
Baptiste Durieux, sur les réseaux sociaux, la disparition de Pabouf, la disparition d'Arnold Sebastian.
Évidemment, ça fait réagir de très jeunes auditeurs comme Alexis qui écrit: personnellement, j'ai connu Dacier, Vincent Labrune et je vis actuellement Jacques-Henri Hérault. Donc pour moi, Pape Diouf, ce n'est pas mon top 3, c'est mon numéro 1, 2, 3, mon numéro 1 sans aucun doute. Message de Romain également qui s'est exprimé en disant: Pape Diouf n'a pas gagné de titre certes, mais il a tout gagné quand même, le respect incontesté et incontestable des supporters, l'amour aussi inconditionnel des supporters de l'OM comme des joueurs, et ça vaut presque une Ligue des Champions. Et puis un message aussi sur Szymański, le gardien du RC Lens: oui, la fidélité, la longévité existe de moins en moins aujourd'hui et c'est tout à fait regrettable.
Vous continuez de nous rejoindre sur notamment le compte Twitter @RTLFoot. Dans la deuxième partie de ce On fait le match, nous parlerons du calendrier du foot français, stop ou encore. L'UEFA qui menace ceux qui voudraient arrêter le championnat est-elle dans le déni? Invité d'On fait le match, Bernard Caillazo, président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne. A tout de suite.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match en compagnie de David Aiello, Stéphane Powell, Eric Silvestro, Philippe Sanfourche. Après la première demi-heure consacrée à l'hommage sur Pape Diouf et d'Arnold Szymański également, l'ancien entraîneur du Racing Club de Lens, nous allons parler évidemment du calendrier de ce football français, peut-être pas seulement d'ailleurs, avec cette question stop ou encore pour le football français et l'UEFA qui menace ceux qui voudraient arrêter le championnat, n'est-elle pas dans le déni? Donc deux questions importantes avant de recevoir Bernard Caillazo qui a des fonctions à l'AS Saint-Etienne, mais pas que à l'AS Saint-Etienne. Et bien puisqu'on parle des Verts, je pense également à Denis Balbir qui nous écoute chaque samedi soir et qu'on va retrouver évidemment très très vite, rassurez-vous, tout va bien pour Denis. Un petit coucou donc à Denis Balbir, la présentation habituelle de ce On refait le match. Messieurs, faisons preuve d'humilité. Tout dépendra évidemment de la date du déconfinement et personne n'en sait rien. Ouais. Donc, marchons sur des œufs. Le championnat de France pourrait reprendre mi-mai, mais c'est fonction d'un déconfinement région par région, ou alors fin mai sur la quasi-totalité du territoire. Avant de partager la conversation avec Bernard Caillazo, le président du syndicat de la Première Ligue, et qu'il nous donne son avis, un premier tour de table. Stop ou encore, le football français, faut arrêter les dégâts?
Je crois que
Philippe Sanfourche.
Cette crise, elle nous apprend que chaque jour, justement, on apprend. et que les positions arrêtées alors qu'on est aujourd'hui le 4 avril, c'est avancer et c'est faire preuve d'assez peu de prudence. Dans cette histoire, il faut faire preuve de pragmatisme, se dire qu'encore une fois, on n'est que le 4 avril, que si le championnat peut reprendre au mois de juin, voire même peut-être au mois de juillet, je pense qu'après il y aura une deadline et on pourra en parler avec Bernard Caiezo, mais s'il est possible effectivement de raccrocher les wagons au dernier moment, eh bien ce sera souhaitable de le faire pour tous les amoureux du football et puis aussi pour l'économie de cette branche, parce que c'en est une et qu'elle est importante. Maintenant, il ne s'agit pas d'imposer tout de suite des dates et de les annoncer. Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence et pas non plus de tirer des plans sur la comète, comme certains l'ont fait, en disant qu'il est déjà trop tard et qu'il faut stopper et mettre fin à la saison.
Éric Silvestro.
Pour moi, ce qui n'est pas gênant, ce n'est pas d'envisager une reprise. Elle aura lieu, cette reprise, d'une manière ou d'une autre. Philippe a raison. Le problème, c'est qu'on veut...
Non, ce n'est pas certain.
Personnellement, je pense qu'elle aura lieu, d'une manière ou d'une autre. Sans doute avec des matchs à huis clos, mais je pense qu'elle finira par avoir lieu. Moi, ce qui me gêne, c'est que sous des réserves économiques, tout le monde veut empresser les décisions, à savoir, par exemple, là, cette semaine, c'était il faut absolument qu'on trouve des dérogations pour que les footballeurs ou les cyclistes, j'ai entendu aussi, puissent aller exercer leur métier, à savoir s'entraîner. Pour les cyclistes, ça pose moins de problèmes, soi-disant, parce qu'ils roulent tout seuls. Les footballeurs, on va les mettre dans des endroits où il n'y aura personne autour, ils vont rester au même endroit, comme ça, ils pourront s'entraîner, etc. Voilà.
Et toujours pendant le confinement.
C'est ça le problème. C'est cette anticipation pour chercher des solutions à très court terme pour des raisons économiques, alors qu'il suffirait de dire on attend le pic de l'épidémie, on attend le début du déconfinement qui de toute façon sera progressif et ensuite on verra comment on peut adapter le calendrier. Le problème c'est que là le monde professionnel mais tous les sports confondus, on veut tirer les marrons du feu économiquement et que donc on essaye d'anticiper et on sort dans l'esprit des gens du côté mais attendez il y a des gens qui se battent contre la maladie, il y a des morts, etc. Et vous nous parlez d'aller mettre des joueurs de foot qui s'entraînent de leur côté. C'est ça qui pose problème, c'est pas le fait d'envisager une reprise.
Stéphane Pouwels.
Je pense que M. Caiezo comprendra bien ce que...
On va l'accueillir dans un instant.
Ce que je vais dire c'est que moi, il y a un truc très nauséabond, c'est l'UEFA. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'à un moment, on nous demande de tout le monde, ils nous demandent cette semaine que les 55 fédérations de tous les pays cautionnent et décident ensemble d'arrêter les championnats. Et puis, la Belgique, qu'est-ce qu'elle prend ? Elle prend une décision d'arrêter en disant, voilà, stop, on ne joue plus au football. Et maintenant, ils reviennent sur leur position en mettant une pression pas possible. Je parle de la Belgique et on l'a reçue juste maintenant, c'est vous qui me l'avez donnée, où la Belgique dit, alors ça c'est absurde complètement, nous allons essayer de trouver une solution constructive. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'UEFA est en train de foutre une pression pas possible sur les championnats, alors que tout n'est pas comparable. Vous savez, c'est plus facile d'arrêter le championnat de Belgique maintenant que le championnat de France. Il y a d'autres enjeux financiers en France, en Espagne, en Italie qu'en Belgique. Et je trouve qu'ils ne sont pas cohérents et que c'est le pouvoir du pognon. Et moi, je trouve qu'à un moment, on ne peut pas aller contre les avis des virologues et des gouvernements indépendants. Ça veut dire que chaque gouvernement a aussi sa vision des choses. Je pense qu'il faut laisser faire, comme m'a dit Eric. Et je pense que, eh bien, en France, on décidera de la situation du pays par rapport à ce virus.
Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Eric et Stéphane. Moi, je pense que gouverner, c'est prévoir. Et que, évidemment, qu'on est tous d'accord que le temps, là, il est à la priorité sanitaire. Mais ça, il n'y a aucun dirigeant du football, ni français, ni international, qui dit le contraire, mais leur rôle c'est quand même d'anticiper ce qui va se passer après. Et c'est pas, on va pas se réveiller
mais ils sont
le
pas
jour
médecins,
du
hein.
confinement, mais c'est David. Mais personne dit le contraire. Il y a aucun dirigeant du football international qui prétend être médecin.
L'UEFA te demande de jouer au foot. Hein.
Ils envoient pas des préconisations sanitaires. Ils disent juste, à un moment ça va reprendre. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre et comment est-ce qu'on peut anticiper tout ça? Donc moi je trouve qu'ils sont dans leur rôle et qu'effectivement c'est logique en ce moment, tout en tenant compte bien sûr de la réalité actuelle qui est le confinement.
David, je te coupe juste une seconde en te disant, moi je suis d'accord avec toi. J'ai dit la même chose. D'ailleurs, il faut prévoir pour la suite. Moi, ce qui me gêne, c'est les demandes de dérogation, les demandes d'aménagement pour un domaine par rapport à un autre. C'est ça qui me gêne. C'est pas de prévoir. Bien sûr qu'il faut prévoir. Tu vas pas pouvoir claquer les doigts et reprendre le championnat demain. En revanche, tu n'as pas à avoir un traitement différent pour le foot ou pour quelconque discipline quand il y a des problèmes comme
il y a aujourd'hui. Le déconfinement sera pas le même pour tout le monde.
Bernard Caiezo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de répondre à notre invitation dans On refait le match.
Je vous en prie.
Prenons le problème à l'envers. Plutôt que de fixer la date de la fin du championnat, Bernard Caiezo, 3 août maximum, hein, donnez-nous la date, dernier délai, où plus rien ne sera possible pour le football français.
Je crois que d'abord, ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a des choses. Alors, premièrement, la première chose qu'il faut dire, il n'y a rien qui passe avant la santé. Rien. Et aujourd'hui, vous voyez, je pense que ceux qui n'ont pas conscience de ça se trompent complètement. Il faut d'abord, première chose, privilégier la santé. À un moment donné, le ministère des Sports a commencé à dire peut-être on peut commencer dans des entraînements fermés, confinés. Ils sont complètement revenus là-dessus. Et ça, ça s'appelle la fausse bonne idée. C'est une très mauvaise idée pour une raison simple. Quand vous aurez des joueurs ou des sportifs qui pendant des semaines auront été confinés, vous croyez qu'ils seront parfaitement sécurisés pour se retrouver dans un centre d'entraînement encore confinés tous ensemble avec leur famille chez eux qui se poseront la question de ce qui peut leur arriver. Sur le plan psychologique, ce serait une catastrophe. Donc toutes ces mesures-là, toutes ces idées qu'on peut mettre, bon, à un moment donné, on peut comprendre que certains essaient de trouver... Non, on est face à une guerre bactériologique. On est face à une situation très, très grave pour l'ensemble, pas du pays, mais c'est le monde entier qui est dans cette situation.
On a compris ça, Bernard Caillazo, mais qu'est-ce que vous préconisez?
Donc à partir de là, priorité, la santé. Il n'y a que la date de reprise, c'est le virus qui décidera. Vous ne savez pas. Personne ne sait. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc la première chose à dire, qu'est-ce qu'a fait l'UEFA? L'UEFA, c'est une date butoir, 3 août, en disant si les compétitions ne sont pas terminées au 3 août, on considérera que les championnats sont terminés. Ils l'avaient fait au 30 juin, maintenant ils sont passés au 3 août. Est-ce qu'ils vont aller plus loin après? Je ne sais pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer au plus tard, je crois, les matchs de Champions League et d'Europa en août. C'est leur démarche. C'est pour ça que peut-être ils sont dans cette réflexion de dire on finit le 3 août. De ce point de vue-là, n'oublions pas que l'UEFA, c'est les Champions League, etc., c'est plus de 3 milliards et certainement, ils ont lâché l'euro, mais derrière, ils ne vont pas tout lâcher. Donc, bien évidemment, ce serait une catastrophe économique pour eux. Moi, je n'ai pas ce raisonnement-là. Nous, au football français, chez Premier League, que je préside avec 90% de l'économie du football français, on n'a pas ce raisonnement-là. On travaille sur différents types de scénarios, mais sans se dire « Ah ben, c'est celui-là » ou « c'est celui-là ». Non, non, tous ceux qui disent « Là, il faut arrêter maintenant », non, mais c'est pas des bons raisonnements. Le raisonnement, il faut être pragmatique. Il faut déjà voir au 15-20 avril comment les choses vont évoluer. À partir de là, il faudra se préparer en conséquence. Mais n'oublions pas, vous avez une préparation psychologique, pas que physique. Vous ne pouvez pas avoir des garçons qui ont passé 6 semaines en confinement et puis se retrouver ensuite, comme par hasard, sur un terrain en étant, même avec une bonne préparation athlétique, le mieux possible. Moi, ce que je dis, c'est que si... Ça veut dire qu'au plus tard, pour terminer le 3 août, il faudrait redémarrer autour, je parle du championnat, des compétitions, autour du 25 juin. Bon. Si la santé le permet, ça doit être la priorité des priorités. Je ne sais pas, mais parfois je doute, mais je suis pour terminer le championnat. Je suis pour terminer le championnat, ne serait-ce que parce que la Coupe de France, et là c'est pas du tout une question de business, ça rapporte rien, mais moi, la Coupe de France, bien sûr, si c'est une Coupe de France à huis clos, on dit tout de suite, c'est vrai que ça n'a plus du tout la même saveur, mais amener le peuple vert, c'est le rêve que je fais.
Mais vous savez très bien que c'est impossible, Bernard Caillazo. Il est impossible au mois de juin de faire venir 60 000...
Ah non, mais qui vous parle le mois de juin de la Coupe de France?
Mais alors, vous voulez la jouer à quelle époque vous voulez la jouer?
Mais non, vous pouvez la jouer. Mais vous pouvez la jouer même en août, la Coupe de France, même en septembre.
Il n'y a plus que la finale. Ça dépend. Il n'y a plus que la finale.
Mais ce que je veux dire, il n'y a plus que la finale.
Bon, mais sauf erreur, vous avez également un match de...
Pensez bien à une chose. Pensez bien à quelque chose. Il n'y a pas plus important que la santé. On ne prendra aucun risque vis-à-vis des joueurs, des spectateurs, etc. Ça, c'est postulat numéro un. On n'est pas, il y a pas de. Moi, je regrette le football d'avant. On n'était pas, orienté business comme aujourd'hui. Où aujourd'hui, c'est trop. Qu'est-ce qu'on veut? Que les joueurs aient des salaires ou au lieu d'avoir 9 Ferrari, je parle des joueurs internationaux, pas avoir la 10e Ferrari. Ça ne sert à rien. C'est une course qui est stupide. Je crois que le football aujourd'hui, il prend un avertissement en disant il faut tout redescendre d'un cran. Il faut revenir à beaucoup plus de choses raisonnables. Nous sommes, et ça, c'est pas que seulement en France. C'est aussi
Bernard, est-ce que vous allez demander clairement, est-ce que vous allez demander à vos joueurs de baisser leur salaire?
Ça dépend de quand on se fera la reprise. Aujourd'hui, vous êtes dans des situations où vous avez des charges. En face, vous n'avez aucune recette. Donc, si vous êtes en septembre, vous êtes toujours dans une situation où vous avez des charges et vous n'avez toujours pas de recette, quelle entreprise peut tenir en ayant des charges et pas de recettes? C'est comme si vous perdiez votre sang, et peut-être vous en perdez peu, mais à terme, dans le temps, si vous ne faites rien, un jour vous aurez perdu tout votre sang et vous finirez par mourir.
Stéphane Powell, c'est une question.
Monsieur Caillazo, vous voyez ce qui se passe avec un pays voisin qui a décidé d'arrêter le championnat et l'UEFA met une pression dessus. Ma question est claire. Si en France, le pouvoir politique et le pouvoir médical demande à vous, les émissaires et les responsables du football français, de ne pas jouer la fin de ce championnat. Vous allez avoir une pression monstrueuse de l'UEFA. Est-ce que vous êtes capable d'aller contre...
Pas du tout. Mais l'UEFA ne fera aucune pression.
Ah ben attendez, ils sont occupés de le faire avec la Belgique.
Écoutez-moi bien. Je connais bien le sujet. Les Belges voulaient arrêter le championnat maintenant. L'UEFA leur dit non. Vous avez... Peut-être que les Belges arrêteront leur championnat. Mais leur dit attendez fin mai, juin, de façon à ce que vous devez vous donner une chance de terminer. Il ne faut pas forcer dans un sens ou dans un autre.
il ne faut pas forcer le retour en compétition, mais il ne faut pas forcer également la durée du virus. Il faut être pragmatique, il faut regarder ce. Donc l'UEFA a dit aux Belges, qui sont nos amis, elle a dit, vous avez du temps pour prendre cette décision. Si vous la prenez trop tôt, on peut vous empêcher.
Mais vous n'allez pas avoir de pression de l'UEFA, vraiment pas.
Mais non, mais l'UEFA, deux choses l'une, où vous avez, en termes de santé, la possibilité de terminer, ou vous ne l'avez pas. Si, date donnée, parce que ce n'est pas la peine de recommencer un championnat le 20 juillet pour le terminer au 3 août.
Ben, si vous ne l'avez pas, Bernard Caiazzo, allons au fond du problème. Si vous ne l'avez pas, cette possibilité, que se passe-t-il ?
Vous ne terminez pas le championnat. Si vous n'avez pas... Si vous n'êtes pas capable de terminer le championnat, la date donnée, ça c'est le 3 août. Vous ne terminez pas le championnat, ben votre championnat ne sera pas terminé. Voilà.
David Aiello.
Monsieur Caiazzo, à l'instant, vous nous disiez qu'il va falloir à un moment tirer les leçons de cette crise. Concrètement, ça voudrait dire quoi ? C'est une question de valeur ? C'est une question économique ? Ouais. Baisser les salaires ?
Non, mais ça veut dire que la course à l'armement, que se livrent les gros clubs européens et 700, 800 millions, 9 millions, 1 milliard, etc., et les courses à l'armement, il faut se dire qu'elles ont une limite. C'est qu'elles ont une limite et qu'à un moment donné, ce mode de fonctionnement ne peut plus exister. Donc il va falloir essayer de peut-être une plus grande concertation, imaginer des salaires capés, imaginer une économie différente et imaginer aussi le vrai football. Moi, je me suis régalé dans les années 80, 85, 90, 95. Je me régale beaucoup moins aujourd'hui dans le football parce que c'était un football qui était pur.
Vous dites ça parce que vous êtes président des Verts hein, et que les Verts étaient...
Non, j'ai toujours été depuis l'âge de 6 ans. Moi, vous pouvez me poser toutes les questions, sur l'histoire du football. Je veux dire une chose. Pourquoi Pape Diouf, je l'ai beaucoup regretté. Il y avait Nicolas, Pape Diouf et moi, qui, à l'époque, quand nous étions à la Ligue, au conseil d'administration, dans les déjeuners, on s'amusait à se poser des cols sur le foot. Et on était les trois, on se régalait parce qu'on a une connaissance de l'histoire du foot. Moi, depuis l'âge de 6 ans, je me suis intéressé au football et j'ai une bonne mémoire. Et je sais qui c'est Brunton, je sais qui c'est Rusticelli, je sais qui c'est Abosolo. Ben bon, on ne va pas faire un... Mais le football, c'est une passion. Moi, c'est une passion depuis tout petit. Hein. Voilà. Et à partir de là, moi, j'ai mal à mon football quand je vois que ça part dans une direction où nous, là, à Saint-Etienne, on n'a aucune chance, pratiquement... par rapport à un niveau budgétaire, etc., parce qu'il y a des gens qui ont des budgets 6, 7 fois, 8 fois supérieurs.
Alors justement, Bernard Caiazzo, parlons finance. Les diffuseurs ont fermé le robinet. Il reste près de 300 millions à verser, Canal Bein confondu, Ligue 1, Ligue 2 confondu. L'enjeu est essentiel, évidemment. C'est la raison, et notamment essentielle, pour laquelle les clubs veulent terminer le championnat, même tous les 3 jours, même à huis clos. Et le huis clos sera même peut-être difficile à effectuer. La notion d'économie, même si vous ne la mettez pas en avant et que vous parlez de la guérison, évidemment, et de supprimer ce virus, la raison pour le football français est essentiellement économique.
Mais si vous avez un état de santé qui vous permet de ne pas terminer, il ne faut pas forcer la fin du championnat pour des raisons économiques. Si vous pouvez le faire, il faut le faire.
On est d'accord.
Et ne pas se mettre à décider de terminer avant d'avoir... dépasser la date en conséquence. Si à un moment donné, la date est périmée, il ne faut pas consommer le produit.
Est-ce que vous avez des problèmes de sponsors, Bernard Caiazzo, à la AS Saint-Etienne, puisque vous êtes le président du comité de surveillance ? On voit que le groupe Accor est sur le point de ne pas verser.
Non, il n'y a aucun. Aujourd'hui, si vous voulez, dans le groupe Accor, ça y est, dernière nouvelle, il y a deux heures, ils annonçaient qu'ils avaient entièrement payé. Non. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Je crois que les partenaires. Oui, il y a deux heures, ils annonçaient qu'ils avaient entièrement réglé le Paris Saint-Germain.
Pour cette saison, oui.
Oui, pour cette saison. Moi, je crois que. C'est très important de penser à ça. Aujourd'hui, malheureusement, le tissu économique français, vous savez que ce qui se passe, 228 000 entreprises ont demandé l'aide de l'État à travers les prêts qui sont accordés. La situation est une situation très très difficile. Bon, aujourd'hui, il n'y a personne qui, de ce point de vue-là, il y a d'autres préoccupations que de savoir si on continue. Aujourd'hui, de toute façon, on est à l'arrêt. On est à l'arrêt. J'ai bien aimé la phrase du président de la Bundesliga qui a dit... notre produit n'existe plus, nous n'existons plus. C'est la vérité. Donc ça, il faut se dire, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Moi, ce n'est pas tellement cette saison que je crains dans notre football français. Parce qu'on trouvera des solutions sur cette saison. Et même si on ne reprend pas le championnat, on trouvera des solutions. C'est la saison d'après. Parce que la saison d'après, qu'est-ce qui va se passer au niveau du tissu économique français qui aura pris peut-être 3-4 mois de situations très difficiles.
Vous parlez du plan d'économie qui sera à venir, donc.
Oui.
Ou des plans d'économie.
bien sûr, aujourd'hui, vous avez des partenaires, vous avez des loges, vous avez des trucs, vous avez des entreprises. Qui... Que va-t-il se passer? Ensuite, vous avez le sujet du mercato.
Ah, c'était...
Surtout si nos voisins n'ont pas repris, ceux qui sont les clubs acheteurs, parce que nous sommes plutôt en France club vendeurs. S'ils n'ont pas repris, dans quelle économie seront-ils? Combien, quelles possibilités en termes de mercato auront-ils? Étant donné que nos clubs sont plutôt vendeurs, on sait très bien qu'il y a des clubs qu'il faut absolument, il y a prévu de vendre
vous
des joueurs.
Président, vous parlez pour vous, là, Saint-Etienne, vous avez un effectif de beaucoup de joueurs et on a vu qu'en fin de saison, il y a des joueurs qu'il fallait peut-être... Vous êtes en difficulté par rapport au mercato.
Si vous voulez, nous sommes le seul club français qui, depuis 10 ans, chaque année, n'a jamais perdu d'argent. Trouvez-moi un autre, donc des leçons de gestion à la Saint-Etienne.
Ah, je ne vous parle pas de gestion, je vous parle sportif. Je sais que Claude Puel demande des joueurs, c'est une bonne guerre, il va falloir transférer.
Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai lu des trucs à droite, à gauche. Les gens, bon, je ne veux pas parce que journaliste sportif, on ne peut pas être non plus un spécialiste de l'économie. C'est comme si je demandais au directeur général Xavier Thuillot de faire l'entraînement à la place de Claude Puel et club, à Claude Puel de faire les finances du club à la place de Xavier Thuillot. Donc
d'accord.
Ça, je vais laisser ça. Ça va. Après, bien sûr, il y a des plans de mercato, tous les clubs, il n'y a pas un club. Vous croyez que l'Olympique Lyonnais qui doit vendre 100 millions d'euros de joueurs par an, il n'est pas concerné par ça? Vous croyez que l'Olympique de Marseille n'est pas concerné par ça? Vous voyez Lille qui n'est pas concerné par ça? Tous les clubs français, sans exception, même les clubs de Ligue 2, sont concernés par les mercato.
Mais vu votre classe, président, c'est pas vis-à-vis de cette étude, mais votre situation sportive qui était quand même, où vous battez pour essayer de vous maintenir, enfin je pense que ça se serait bien passé, mais vous allez devoir changer votre équipe. C'est quand même, ce mercato va être compliqué.
On a une équipe de jeunes. Écoutez, vous laissez Claude Puel avec son expérience.
Bien sûr.
On a une équipe de jeunes formidable qui a gagné la Gambardella l'année dernière, qui est en train de monter en puissance. Moi, les dernières discussions que j'avais eues avec Claude, c'est qu'il m'avait dit qu'on est en train. Peut-être c'est l'effet Coupe de France, d'une énorme motivation des joueurs. Il m'avait dit, nous, les entraînements aujourd'hui, tout se passe le mieux du monde. L'équipe monte en puissance.
Oh, et
je
surtout,
suis très confiant pour la suite de saison.
Et surtout,
donc moi, je ne suis pas gêné. J'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Et je pense qu'il faut voir aussi le grand regret, c'est effectivement si on ne joue pas cette finale de Coupe de France et surtout si on ne joue pas, c'est avec nos supporters.
Et surtout, on va en rester là, président Cayazo, président de la Première Ligue. Simplement, la question est claire et nette et en quelques secondes, si vous pouvez. Le football, stop ou encore? Le football français, c'est stop ou encore en l'état? Parce que vous anticipez. Donc stop ou encore pour ce qui vous concerne?
S'il faut l'arrêter, le football pour des questions de santé, il faut l'arrêter. Si les choses se remettent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont... Vous savez à quoi je pense? Moi, je pense aux personnes dans les maisons de retraite qui sont en isolement. Eux, ils n'ont pas le virus du coronavirus. Ils ne l'ont pas. Mais vous savez quel virus ils ont? Ils ont le virus de la solitude, de perdre leur famille, parce que comme ils sont en isolement, on peut pas. Quand vous avez 90 ans, c'est ça le vrai problème. Le vrai sujet, il est là. Il n'est pas au niveau du football.
Merci.
Il est là et je pense à ces personnes-là.
Merci
voilà
beaucoup.
Ce que je voulais vous dire.
Merci mille fois. Merci Bernard Cayazo. Donc, au comité de surveillance de la Saint-Etienne. Pas convaincu autour de cette table. On y reviendra, mais je voudrais qu'on prenne Ludovic sur le 32-10, qui est supporter de Montpellier. Bonsoir Ludovic.
Oui, bonsoir à tous les sportifs confinés.
La question est simple, Ludovic. Si le football, le championnat redémarre, mais à huis clos, est-ce que ça vous convient comme solution ou est-ce que vous préféreriez retrouver vos potes supporters pour aller à la Mosson?
Les potes supporters pour aller à la Mosson, c'est évident. Mais de toute façon, l'entretien avec Bernard Cayazo, il était très sympa. Et puis il a raison, c'est la santé avant tout. De toute façon, je pense que pour les mordus de Ligue 1, on en est tous... même si on a la possibilité de reprendre, en tout cas à huis clos, comme vous dites, on prend. Parce que franchement, là, on commence à s'ennuyer, etc. Mais après, on n'est pas débiles. On sait qu'il faut attendre. On sait que la santé prime. Et puis pour le foot, après, on verra ça dans un second temps. Mais c'est bien aussi de pouvoir anticiper. Et par rapport à ça, je pense que ce qui sera le mieux... Là, de toute façon, on débat, mais on est dans le flou total. Donc tant qu'on n'en sait rien et que... On n'a pas les décisions gouvernementales par rapport à la santé, on peut pas savoir. On est dans le brouillard en plein mois d'avril. Et franchement, on a arrêté le championnat avec un match en moins à la 28e journée. Chacun veut voir midi à sa porte. Moi, je suis Montpellierain. Je dis, on arrête le championnat à la 27e journée à partir du moment où tous les clubs ont joué, puisque Strasbourg-Paris avait été reporté. Nous, on est 6e, on va en Ligue Europa. Et puis, même ça, il y a l'UEFA qui a mis la pression, vous l'avez dit. Est-ce que les clubs français, si on arrête le championnat à la 27e journée, on va pouvoir partir aux compétitions? Franchement, moi je m'en fous. J'ai des copains aussi qui sont à Toulouse, Thierry qui écoute aussi RTL et qui me dit, mais même si le championnat n'est pas annulé, qu'on reparte en Ligue 2, à un moment donné, voilà, le problème il n'est pas là, il faut attendre, il faut être patient, il faudra prendre les meilleures décisions parce que économiquement, tout le monde souffre. Le foot, et encore, ça c'est un second plan après la santé. Donc, Je comprends que les instances, la Ligue bosse et tout, mais il faut être patient et surtout prendre les bonnes décisions et pas se presser.
Merci beaucoup Ludovic. Merci David Aguilot.
Non, juste pour rebondir sur ce que disait Ludovic, parce qu'on voit beaucoup de sagesse dans son témoignage et on a tendance souvent à caricaturer les supporters de football comme des abrutis finis. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du football, il y a beaucoup d'initiatives de la part des supporters partout en France pour soutenir le milieu hospitalier. Et parfois, on a certains milieux, je pense aux politiques, qui donnent beaucoup de leçons aux supporters de football. Ben, je pense qu'il ferait bien de regarder un petit peu le cœur que développe le monde du football de manière générale.
Si on est un peu pragmatique, moi j'essaie de retenir la chose que je retiens de l'intervention du président Premier League Caiezo, c'est la date du 25 juin. C'est bien celle qu'il a, si j'ai bien compris, martelée, à savoir que pour terminer le championnat le 3 août, la date imposée par l'UEFA jusqu'à laquelle les ligues auront le droit de jouer, il faut débuter la reprise des matchs, les 10 derniers matchs qui restent, le 25 juin. Nous sommes début avril. De toute façon, le scénario est très simple. Soit les choses évoluent plutôt dans le bon sens et on peut imaginer que 3, 4, 5 semaines de préparation pour les joueurs pour une reprise le 25 juin, ça veut dire que les joueurs devraient entamer leur préparation physique et mentale aux alentours du 15-20 mai. C'est-à-dire dans 6...
Non, mais là, t'en mets trop, là.
Non, mais attends. C'est-à-dire dans 6 semaines. Faire
un trauma, oui.
Mais non, moi, j'ai lu la très bonne interview de Carlo Ancelotti dans l'équipe hier ou avant-hier.
Non, pas si bonne que ça, finalement.
Ah bon?
Non, c'était un monde de bisounours. Hein.
Ah, moi je veux.
Bon, vas-y, c'est beau, tout ça. Vas-y, après, j'essaie de finir mon propos quand même.
Peu importe.
Les questions excellentes. Juste.
Aussi, la beauté en touche de tout.
Attends, laisse-le bien, juste après, j'aimerais conclure.
Il disait une chose, je pense qu'il a un peu l'expérience en la matière, qu'à ce niveau-là, un joueur aujourd'hui est capable, si on lui dit tu reprends dans 15 jours, il pourra jouer dans 15 jours sans qu'il y ait
des problèmes. Mais si, je suis d'accord.
Parce qu'il n'y aura que 10 matchs à jouer, on parle pas de faire
la saison. La folie furieuse. Neymar, d'abord, Neymar, quand est-ce qu'il va revenir? Non, mais quand est Thiago Silva, bah,
quand
est-ce qu'il
sera terminé le confinement,
mais on peut très bien au Brésil, mais t'as 15 jours de retard.
Mais Christian,
au
Brésil. Mais ça, on peut
c'est
très bien reprendre.
Ah, bah, c'est la capacité de pouvoir reprendre le football et de jouer sur Internet.
Pourquoi ils vont reprendre cramé alors?
Mais excusez-moi, Neymar, Thiago Silva,
il se prépare en faisant du beach volley dans sa résidence principale.
Christian, la France redémarre son championnat à telle date. Si au Brésil ils sont encore confinés, et ben le Paris Saint-Germain jouera les 10 derniers matchs sans Neymar, sans Thiago Silva.
Mais que FIFA donc
c'est pas un problème. Donc ça c'est pas un problème.
Les joueurs ne sont absolument pas prêts. Et une majorité de joueurs ne sont plus en France.
Mais je parle pas des problèmes administratifs, je parle de physiquement
mais
parlant.
Mais ils sont pas
prêts.
Mais pourquoi
si, ils sont pas prêts? Enfin,
Philippe,
n'importe Philippe, quoi.
Excuse-moi, mais
j'essaierai de finir ma démonstration
après la publicité. Démonstration d'Éric
Olivier sur RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Le débat est enflammé, on fait le match avec Stéphane Powels, David Aiello, Eric Silvestro et Philippe Sanfour.
Stop, messieurs. Alors ça, je ne l'ai pas vu venir.
Est-ce que les joueurs seront prêts pour une reprise du championnat qui n'est absolument pas identifiée? Démonstration, Eric
Silvestro. Je veux juste essayer de finir mon propos. J'en reviens à cette date du 25 juin, pour la reprise donc, pour terminer le 3 août. 25 juin, après, il y a des joueurs qui mettront un mois, 6 semaines, 15 jours pour se préparer, peu importe, comme tu dis Philippe, ceux qui ont été pros seront prêts peut-être en 15 jours. Mais admettons même qu'il faille 4 semaines d'une manière générale, un peu comme après une coupure de vacances d'été. Ça nous emmène donc au 25 mai. Il faut reprendre l'entraînement, pas le championnat, l'entraînement le 25 mai.
Mais
nous
ça sommes, c'est un scénario quand même, tu vas loin,
début
après
4
semaines déjà.
Donc ça nous laisse quasiment 8 semaines. Si d'ici là, la situation n'a pas évolué au niveau de la pandémie, la question ne se posera même plus, on ne pourra pas terminer le championnat et on l'arrêtera. Si d'ici là, la situation a évolué, que le déconfinement a légèrement été entamé début mai, eh bien, le 25 mai, les joueurs de foot iront reprendre leur entraînement. Le 25 juin, on redémarrera la saison.
Vous ne comprenez pas.
Et le 3 août, elle sera terminée.
Ne seront pas
Philippe Sanfourche. Mais moi, j'ai compris. Je voudrais juste dire à Philippe Sanfourche. À mon cher Philippe, on est en train de mettre en dépression ici tous les préparateurs physiques de
prévention.
Écoutez, moi j'ai eu des Philippe Lambert, des sommités, des mecs qui connaissent leur boulot. Il y a l'explosivité, l'intermittence, il y a plein de choses qui sont mises en cause. En 15 jours, tu vas pouvoir préparer des mecs, des athlètes, athlètes de niveau. Ben moi je te dis minimum un mois.
Non,
minimum.
Ouais, ben, c'est un mois. Un mois, c'est pour une bonne.
Alors écoutez, si c'est pour terminer le championnat avec des équipes à moitié en forme pour faire des demi-matchs de football, faites des championnats de beach volley, au moins Neymar il sera prêt.
Ce sont des matchs d'entraînement,
des matchs de haut niveau, donc il faut un mois.
Mais on s'adaptera à la situation. D'autre David part, dans ton scénario, mon cher Eric,
c'est celui de Bernard Caiezo.
Justement, c'est le scénario de Bernard Caiezo au 4 avril. Donc quand il parle d'une reprise au maximum, d'une fin de championnat, pardon, au maximum le 3 août, il l'a d'ailleurs précisé, c'est le scénario actuel. Peut-être que dans 15 jours, l'UEFA va dire bah non, finalement, on veut bien terminer le 15 août. Parce qu'ils vont tenir compte de la situation. Bah exactement.
Non, mais là, c'est le pire scénario. C'est-à-dire, le pire, aujourd'hui, c'est le 3 août pour terminer. Donc, ça laisse quand même encore beaucoup de marge.
Mais quand tu vois les gars dans l'état qui sont maintenant là, certains, qui sont quand même très loin physiquement.
Mais, quoi, ils sont très loin, ils ont tous des programmes, écoute, avec des longs GPS.
David, excuse-moi, peux me permettre que j'ai fait quand même 6-7 préparations avec Lille, avec Monaco, en étant avec eux, en stage avec Veil. Donc je pense qu'une préparation, j'ai vu, et notamment avec le PL.
Mais tu parles d'une préparation d'une saison entière.
Alors, là, je reviens à ce que dit Christian, et bien même pour 10 matchs. Si vous pensez, je vous répète, et je ne suis pas préparateur physique, si vous pensez qu'en 2 semaines, vous allez pouvoir jouer, parce qu'on va les faire jouer tous les 3-4 jours.
Stéphane, s'il y avait
si vous pensez que vous pouvez être à 100%, c'est impossible ce que vous dites.
S'il y avait l'Euro, quand tu récupères les internationaux, tu refais une petite préparation. On l'a vu ces derniers temps, les dernières compétitions, par exemple, Antoine Griezmann avait eu des préparations spécifiques pour pouvoir monter en puissance.
Combien de temps ils avaient plus de deux semaines pour se préparer.
Ce que vous n'avez pas en compte, il ne s'agit pas de football, c'est la date du déconfinement.
Oui, c'est ce que je vous dis.
Et cette date de déconfinement, elle va sans doute être prolongée et elle sera ensuite étalée.
Progressive.
Fonction des régions. Donc ne me dites pas.
Ben ça jouera à huis clos.
C'est même pas certain.
À huis clos pour les spectateurs. Mais quand tu fais un match à huis clos, tu fais venir quand même 2 délégations, tu les fais voyager. Comment tu les fais voyager?
Mais justement, quand on parle.
Comment tu filmes le match?
Quand on parle de déconfinement progressif, dans ce qui a été évoqué par le gouvernement dans la notion de déconfinement progressif, c'est pas seulement géographique, ça peut être également en fonction des corps de métier. Non. Tout le monde a pas. Ah si, non. Ça a été évoqué.
Ah,
ça a été évoqué.
Géographique surtout.
Géographique, bien sûr.
C'est une piste.
Elle n'est pas arrêtée. Mais il peut y avoir d'autres modes de déconfinement.
Paris ne jouera pas en octobre.
Le football fera partie. En tout cas, le football professionnel, évidemment pas le football amateur qui aura sans doute sa saison est terminée, mais le football professionnel fera partie des premières dérogations comme aujourd'hui le BTP ou des choses comme ça où on encourage ces métiers-là à travailler. Alors, même
ça,
en plein confinement.
C'est un autre problème, Eric.
Mais si, parce que là, il y a des enjeux, pour le coup, même si moi, ça m'énerve, des enjeux économiques qui font que 30 professionnels à un endroit, à un moment, quand le déconfinement aura débuté,
va
eh bien,
expliquer
le football...
cela au restaurateur qui voudrait ouvrir sa terrasse au mois de juin quand le soleil ça sera à son zénith. Va lui expliquer
mais
que
bien
lui
sûr,
devra
Christian.
Encore fermer sa terrasse,
oui,
va expliquer ça au plagiste qui ne pourra pas installer ses matelas sur la plage, va lui expliquer cela pendant que les footballeurs, eux, auront le droit de s'entraîner,
je ne suis pas en train d'opposer les métiers, je dis juste que dans un centre d'entraînement fermé où les joueurs 30 viendront s'entraîner pour leur préparation, c'est pas comme un restaurateur où tu peux avoir une ville entière qui voudra aller au restaurant, donc l'organisation sera beaucoup plus simple pour les footballeurs professionnels. C'est ce que disent d'ailleurs les cyclistes qui vous disent à longueur de journée, nous on sort tout seul, on roule tout seul pour pouvoir préparer le Tour de France. Bon, moi, aujourd'hui, je trouve ça complètement déplacé. Mais ça peut s'entendre aussi.
Moi, ce qui m'esclave avec le milieu de la corporation et les observateurs du foot, c'est quand un joueur, par exemple, un grand joueur est blessé, on dit, ah ouais, il rejoue, il n'est pas prêt. Hein. Il lui faudra 2-3 matchs pour qu'il puisse retrouver son vrai niveau. Et là, vous me dites quand
on dit qu'ils pourront rejouer, l'équipe de 30 joueurs,
comme moi, je vais pouvoir rejouer. Sur une plage.
Ton joueur qui a été blessé, il revient de manière isolée dans un milieu où tous les autres sont au sommet de leur forme.
Donc
la disparité est énorme. Là, on a des joueurs qui vont arriver tous ensemble avec le même niveau de préparation. Donc ce sera des matchs qui seront un petit peu moins performants. Mais ce sera aussi une façon, parce que je pense que c'est une question qui va se poser dans les semaines à venir, c'est que pour l'instant, tout le monde fait preuve d'une extrême bonne volonté, tout le monde fait des efforts, mais il y a aussi une évolution psychologique d'un pays, d'une humeur, de quelque chose, et je pense que dans quelques semaines, quand viendra peut-être le temps du déconfinement, eh bien, les passionnés de sport, comme les passionnés de spectacle, auront peut-être droit à avoir, comme ça, un spectacle de théâtre, quelque chose de manière un peu isolée, mais qui va redonner un petit peu de vie dans ce pays, parce qu'il y en aura besoin.
À huis clos, le spectacle.
Il y en aura besoin. Et mais ce sera déjà quelque chose qui existera.
Ça permettra d'avoir un spectacle de
football qui sera moins excitant que celui qu'on aime et qu'on appelle de nos voeux pour très bientôt, mais ce sera le début de quelque chose.
Vous êtes journaliste avant tout et avant d'être journaliste de sport, mais Philippe, je m'étonne que tu ne prennes pas la gravité de la situation en compte par rapport au déconfinement qui n'est absolument pas pour l'instant d'actualité, qui va se prolonger, qui sera progressif.
Mais c'est pour ça qu'on prend
et vous êtes en train de nous parler d'une fin de championnat qui pourrait arriver à son terme le 3 août.
On prend des précautions, des pincettes avec tout.
On parle de dans 8 semaines.
Aujourd'hui, le déconfinement, on ne sait pas du tout dans quelle mesure il va se faire et de quelle manière. On parlait de régions, mais ce n'est pas du tout acté, ça. si demain il y a la possibilité de développer des tests à l'échelle de la nation, eh bien ce sera peut-être par petites poches parce que les tests seront disponibles.
C'est pour ça qu'en début d'émission j'avais dit qu'on n'est pas en capacité car on
mais totalement mais
c'est
ce qu'on fait. Fait. Fait
non mais juste si dans 8 semaines la date que j'ai évoquée du 25 mai oui. on est toujours en confinement oui. c'est pas que les footballeurs professionnels qui vont avoir besoin de 4 ou 6 ou 8 semaines de préparation, c'est tous les Français hein. Parce que ça veut dire que tout le monde a passé 2 mois en confinement, ce qui sera sans doute le cas, voire même plus.
Mais tous ne mangent pas des pâtes saucisses comme vous.
Peut-être 3 mois.
Je tiens à vous le dire.
Mais je peux vous dire que la déprime sera bien au-delà des footballeurs.
Les réseaux sociaux, Baptiste.
Oui, un petit message sur la préparation. Mathieu qui nous dit « Excusez-moi, mais en termes de préparation, c'est pareil pour tout le monde. On s'y fera. Ce sera comme des matchs caritatifs, comme du district, ou comme mon père, le dimanche, quand il veut jouer ailier comme Mbappé, alors que sa bedaine lui titille les orteils. C'est pas sympa. La Ligue des talents deviendra la Ligue des lents tout court, mais pourvu que le championnat se termine.
Et si le football amateur, lui, va jusqu'au bout, ce qui est loin d'être gagné.
Mais non.
Ce district
sera la deuxième lame.
Bien sûr. David est avec nous sur le 3210. Bonsoir, David.
Oui, bonsoir, toute l'équipe.
Bonsoir. Dans le 69, supporter de Lyon, par conséquent, David.
Exactement.
Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, David?
Moi, je pense que déjà, il faut prendre la sagesse, franchement, par rapport à l'état actuel, par rapport aux morts qui s'accumulent et tout ça. Et je trouve même, moi, qui suis pourtant un passionné de foot, aussi, autant en tant que supporter de l'OL, mais également dans un club amateur, etc., en étant coach, etc. Sincèrement, moi, je trouve même parfois un petit peu décalé de vouloir absolument trouver une date, trouver un truc, de parler de déconfinement alors qu'on n'en est pas du tout là. Moi, je trouve que... Enfin, est-ce que ça peut être bien vu? On sait que des fois, le football professionnel, avec l'argent que ça engrange, avec les salaires des joueurs, c'est pas toujours bien vu par l'opinion publique. Est-ce que là, de mettre en avant tout ça, alors le faire dans une émission comme la vôtre, c'est tout à fait normal, on est là pour ça. Mais par contre, venir parler de ça alors que les problèmes sont très clairement ailleurs, moi, parfois, je suis un petit peu choqué.
C'est pour ça, David, qu'en préambule et en ouverture de cette émission, j'ai vraiment balisé le terrain en disant « faisons preuve d'humilité, on ne sait rien sur rien. Pour l'instant, on ne connaît pas la date du déconfinement. Et il y a aussi des choses importantes avec les services soignants qui se battent comme des lions, effectivement, pour sauver des dizaines et des centaines de personnes. Donc, on a effectivement mis toutes les précautions d'usage en place pour ensuite parler un peu de football, de se distraire et de s'adresser à ceux qui sont précisément dans le confinement et qui veulent aussi se changer les idées. Il faut que les choses soient très claires jusqu'au bout sur la démonstration de David. David, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a des choses un peu plus importantes, effectivement.
Bien sûr. Après, quelles seront les dates et quelles seront... Moi, je pense que ce qui va faire le plus parler... c'est justement la reprise et sous quelle forme. C'est-à-dire, bon, on sait ce que Jean-Michel Aulas a commencé, il s'est fait taper dessus par rapport à certaines choses. Moi, je pense que c'est ça qui va faire parler. C'est qu'en cas d'arrêt, c'est quelles vont être les décisions prises, même s'il y a un règlement, et aujourd'hui, le règlement, je crois que ce serait, sauf erreur, hein, c'est le classement à l'issue de la dernière journée. La dernière journée...
Il n'y a pas de règlement officiel.
C'est le grand flou dans les textes,
il n'y a pas de règlement officiel.
Ce n'est pas acté.
Cette situation n'a jamais été inscrite dans les textes.
Il eût fallu que ce soit comme le Tour de France. Quand il y a un incident important, l'étape est neutralisée et les positions sont figées. Ouais. Et on repart le lendemain matin avec des positions figées. Mais le Tour de France, c'est le Tour de France. Et le football, c'est le football.
Après moi, pour le déconfinement, je suis un peu circonspect parce que je pense que même ça peut être le cas sur des tranches d'âge, ça peut être le cas sur des zones géographiques. Et comment le football pro, hein, on va parler que du pro, comment le football pro peut se marier avec ça.
Évidemment.
Mais parce que, alors je vais vous répondre, c'est qu'un avis personnel, je ne prétends pas connaître la solution,
mais
je pense que ce sera des branches de métier.
Mais oui.
C'est-à-dire qu'on va dire, comme au BTP ou comme au restaurateur, vous avez le droit d'ouvrir, les footballeurs professionnels, vous avez le droit de recommencer l'exercice de votre métier, en tout cas la préparation. En revanche, même si c'est dans une zone géographique qui n'est pas concernée par le déconfinement pour le grand public, on autorisera par corps de métier, et notamment ces professionnels-là, qui sont peu nombreux à exercer. En revanche, toi, je parle à Strasbourg par exemple, je dis n'importe quoi, à Strasbourg on va dire aux footballeurs de Strasbourg, vous avez le droit de reprendre l'entraînement. En revanche, on ne dira pas forcément en même temps à toute la population de Strasbourg, vous avez le droit de sortir, d'aller faire du vélo, d'aller au restaurant,
etc. Par conséquent, tu ne pourras pas lancer ton championnat ou ta reprise de championnat dans les conditions normales.
Non, mais
parce
ça,
que quand tu auras donné l'autorisation aux gens de Strasbourg...
Ah non, mais je pense qu'aux footballeurs, on leur donnera tous en même temps.
Nantes ou de...
Non, mais justement, on donnera à tous les footballeurs de tous les clubs l'autorisation simultanément de reprendre l'entraînement. En revanche, peut-être qu'on aura donné l'autorisation à la population de Strasbourg de sortir, mais pas à celle de Nantes. Où je dis,
mais donc tu ne pourras pas faire les matchs.
Donc, Nantes, mais si, les matchs,
ça va être compliqué.
Mais Nantes, faut les faire.
Mais même, il faut les faire bouger.
Mais les matchs, ça peut se faire à huis clos.
Mais non, c'est impensable.
Mais on ne va pas mettre 40 000 personnes dans un stade le lendemain d'une épidémie, les enfants.
C'est exactement ce qu'on te dit.
Donc, on peut jouer les matchs à huis clos.
Eh bien, je ne crois pas non plus.
Non,
parce qu'il faut faire déplacer les Nantais à Strasbourg.
Mais les Nantais, ils partent dans leur bus, ils arrivent dans le stade.
Les Nantais ne viennent pas qu'à 11. Quand tu fais un match à huis clos, tu as quand même beaucoup de population du côté nantais, du côté strasbourgeois. Tu as du personnel de la télévision, tu as aussi un personnel malgré tout de sécurité. Et il y a un problème que vous ne soulevez pas, les amis. C'est-à-dire tous les supporters qui vont se déplacer aux entrées des stades, sur les parvis, etc., pour encourager leur équipe.
Ils n'auront pas le droit.
Mais comment et alors, est-ce qu'ils avaient le droit au Parc des Princes?
Oui, ils avaient le droit. Tu penses que si on avait dit aux supporters de Paris, vous ne pouvez pas aller, ils ne seraient pas allés quand même? Bien sûr que si.
Non, mais la situation est impossible.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on fait le même match aujourd'hui à huis clos. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 4000 Parisiens devant le
match. Mon cher Eric et mon cher Philippe, je pense que les matchs à huis clos, ce n'est pas possible. D'abord parce que, comme dit Christian, il y a donc des déplacements de gens et donc ça veut dire qu'il y a des risques tout le temps. Allez, je prends l'exemple. PSG-Lille, Paris Saint-Germain doit se déplacer à Lille et Lille est une zone qui doit continuer à rester confinée. Expliquez-moi comment vous allez faire pour déplacer tout le monde.
On est en train de dire des bêtises là.
Non,
cette semaine, on a appris que le bus des Girondins de Bordeaux était mis à disposition de 18 soignants volontaires pour rejoindre Mulhouse pour aider les hôpitaux.
Et ça, qu'est-ce que ça a à voir?
On est d'accord,
on peut déplacer 150 personnes.
Tous les déplacements ne sont pas interdits non plus. Là, on parle dans un scénario où le déconfinement aurait débuté dans de petites... Je te dis pas, aujourd'hui, on est en confinement total.
Donc évidemment,
là, on n'est plus dans le même contexte. Le jour où les footballeurs auront le droit de reprendre éventuellement l'entraînement et où dans deux mois, le championnat aura repris, le déconfinement aura forcément commencé.
Et le sujet est trop grave, Eric. Imagine que les Nantais se déplacent à Strasbourg, que tu as un joueur nantais les Nantais sont à Strasbourg et qu'ensuite un Strasbourgeois, un Nantais soit contaminé.
Mais oui, mais encore
une fois, qu'est-ce qui se passe? On n'aurait pas dû les faire jouer.
Non, mais Christian, si on part de ce principe, vous actez aujourd'hui le fait qu'au 25 juin, toute la population française sera toujours confinée chez elle.
Mais moi, je ne le sais pas.
Ah, ben si, si on ne peut pas estimer que dans deux mois, peut-être, et 10 personnes pourront jouer un match de foot, ça veut dire que toute la France sera encore chez elle.
Déconfinement. Je suis parisien, mais je travaille à Lille. Donc, je parle bien de boulot. Et donc, dans ton déconfinement, à Paris, je ne peux pas bouger parce que là, on doit rester confiné parce que le risque est beaucoup plus haut. Mais j'ai le droit de prendre le Thalys tous les matins pour aller travailler à Lille. Donc ça veut dire que c'est une ineptie. Ça veut dire que moi, dans mon train, j'ai peut-être le coronavirus à Paris. Ça voudrait dire que je vais aller à Lille travailler et donc je peux le refiler à tout le monde.
Mais
et tu demandes aux joueurs de foot.
C'est le même scénario que le football. Qui va travailler, donc jouer.
Mais c'est le même scénario.
Eric parle de transport de footballeurs, c'est-à-dire donc de te transporter soit en car, soit en avion, de manière complètement isolée. On parle de la même chose.
Mais les supporters, les stewards,
les supporters, on a dit qu'ils étaient à huis clos.
Les joueurs sur la pelouse. Et le kiné, tu les prends pas.
L'un contre l'autre, enfin, je veux dire, ça peut se transmettre.
Mais les joueurs, tout cela ne sera possible que si ces gens-là peuvent être testés.
Bien sûr.
Et qu'ils vont rentrer sur la pelouse en ayant la certitude que tout le monde a été testé.
C'est quand même le cœur. Qu'est-ce que vous racontez?
Ce sont les tests.
Bon, les amis, je crois qu'on va se calmer. 19h45, on va tourner une page de publicité et ensuite on va parler encore un tout petit peu de ce dossier et puis également de Karim Benzema. Giroud, pourquoi tant d'aigreur? Neymar, Thiago Silva, pourquoi tant de provocations? A tout de suite.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
La dernière ligne droite dont fait le match avec Stéphane Pauwels, David Ayedo, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche. Avant de parler de Benzema, de Neymar, de Thiago Silva, une petite question encore sur l'aspect économique des choses. Vous avez vu que 4 présidents de clubs montent au créneau, choisis par les dirigeants de Canal pour tenter de persuader Canal de verser ce qu'il leur reste à payer jusqu'à la fin de la saison. Alors, nous avons Nasser Al-Khelaïfi, Olivier Sadran, également Jacques-Henri Hérault et Jean-Pierre Rivière pour l'OM et pour l'OGC Nice. Est-ce que vous trouvez ce casting pertinent, cohérent, sans qu'il y ait le moindre représentant de la Ligue du football professionnel?
Non, mais c'est surtout que Nasser Al-Khelaïfi, on peut quand même le rappeler, est PDG, président-directeur général de beIN Média International. C'est-à-dire que c'est le grand patron de beIN qui, alors qu'il est toujours co-diffuseur de la Ligue 1. Et c'est donc lui qui est choisi en l'occurrence par Monsieur Saada, le président de Canal, pour négocier.
C'est une farce, hein.
Mais c'est une farce.
Une farce complète.
C'est une farce. C'est-à-dire que là, on n'a pas eu le temps de tout évoquer avec Bernard Caillazo, mais là, c'est la preuve noire sur blanc que le football français marche sur la tête et que le football professionnel français vit dans une bulle totalement isolée de tout
ce qui est les règles de faire l'avocat du diable.
De cohérence,
David Aiello, dans les économiques.
David Aiello.
Évidemment que tel que Philippe a présenté les choses, on a envie de se dire, on marche sur la tête.
C'est factuel. Hein.
C'est factuel, effectivement. Maintenant, je me dis.
N'y a-t-il pas une stratégie?
Une stratégie, certainement. En tout cas, je me dis, peut-être que les présidents des clubs de foot français se sont dit, Nasser El Khelaïfi connaît les dossiers et le seul homme capable de nous sortir de cette ornière, c'est lui, parce que de toute façon, on n'est pas en position de force et il va falloir, d'une manière ou d'une autre, négocier. Et que lui va pouvoir le faire parce que, par ailleurs, il a une position. On rappelle que beIN est désormais diffuseur, que Canal est désormais diffuseur exclusif de beIN et que les relations que, déjà entre les deux hommes et entre les deux groupes font que Nasser El Khelaïfi, en tant que président de beIN Media Group, mais également du Paris Saint-Germain, va pouvoir un petit peu arranger tout ça. Oui, moi, c'est la seule hypothèse que je vois.
C'est l'État dans l'État.
Je
ne suis pas juriste, mais le conflit d'intérêts saute quand même aux yeux de manière évidente.
Non, les avocats de la Ligue apparemment ont été consultés et ils ont validé le
process. Raison pour laquelle Nathalie Baudelatour, dans un premier temps, s'est abstenue et qu'elle a révisé son jugement. Donc elle
non, mais alors si là on estime qu'on peut discuter, dialoguer, négocier et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts.
Mais est-ce que ce n'est pas une certaine façon pour les présidents de clubs de Ligue 1, voire de Ligue 2, d'envoyer au feu justement le Qatar pour tenter de.
Ah bah alors c'est vraiment des
pour
stratégies.
De quoi
et ça, je doute qu'ils ont cette stratégie là.
Bah, pour tenter justement de convaincre Canal et ensuite peut-être demander au Qatar d'aider le football français.
Christian, alors c'est vraiment qu'ils sont très très loin au niveau stratégie et franchement, alors
qu'ils
là,
en
c'est,
ont pas
du, c'est du très high level. Moi je vais aller avec Philippe sans fourche. Hein. Je suis avec Philippe et même Eric. Hein. Faut arrêter quoi. Si là il n'y a pas conflit d'intérêt, il n'y en aura plus jamais. Ouais, ils se foutent vraiment de nous quoi.
L'affaire n'est pas simple. Et sans faire preuve de cynisme, il y a quand même toujours, parce que ce sont des dirigeants et que c'est normal qu'ils s'occupent des finances, la vraie question, en fait, c'est le point d'équilibre. Quelle est la moins mauvaise solution? Est-ce qu'il vaut mieux faire en sorte, encore une fois, on prend toutes les précautions, si les conditions sanitaires le permettent, est-ce qu'il vaut mieux faire en sorte de reprendre ce championnat et de le faire terminer au mois d'août
ouais.
Il faudra bien que derrière, il y ait une petite trêve, il faudra bien... Et donc derrière... de venir impacter la saison suivante. N'oubliez pas que la saison suivante, c'est l'arrivée de Mediapro avec le pactole. Si vous dites à Mediapro, finalement, le contrat, il a changé. On démarre plus début août, mais on démarre mi-septembre. Et puis, il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de mercato. En gros, on vous offre un produit au rabais. Mediapro, ils vont dire, mais attendez, 1,2 milliard pour ça. Non, non, vous allez, on va réduire l'enveloppe. Donc, finalement, la vraie question pour le football français aujourd'hui, c'est où est-ce que tu as le plus et le moins à perdre? Est-ce qu'il vaut mieux pas tirer un trait sur cette saison? Et tu sais que tu as perdu 300 millions, mais au moins c'est factuel, tu as perdu 300 millions. Et derrière, tu as le 1,2 milliard qui arrive. Alors que si tu l'as fait aller au bout avec, de toute façon, beIN et Canal qui vont se battre pour que ce soit...
C'est du haut niveau, c'est quand même,
tout.
C'est quand même du très haut niveau.
Olivier Sardran sort de ce corps. Hein.
Non, mais
le président Tours qui parle là, non
ouais, alors, je
compte tenu
Toulouse,
cette situation.
Il cherche à vendre son club.
C'est une blague.
Et il est dans le club des quatre pour tenter de sauver le football français. Donc,
non, mais
c'est bien. Ils ont,
mais il représente un petit peu toutes les familles.
Enfin, tu mets des gens qui sont un peu plus concernés. Quoi, parce qu'on ne peut pas dire qu'Olivier Sardran soit extrêmement concerné.
Si, puisqu'il représente aussi les intérêts des futurs clubs de Ligue 2. Donc c'est bien, ça prouve qu'on
est. Mais non, Eric, tu déconnes. Il voulait vendre son club encore.
Il représente les petits, en tout cas.
Pour l'instant, il représente les petits. Il est derrière les Ligue 1.
Bah oui.
Après, c'est un dirigeant
et vous
de
vivez
haut
au pays des bisounours. Et les copains, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes à la maison avec vos enfants, mais vous vivez au pays des bisounours. Hein.
Les réseaux sociaux,
c'est peut-être ce que je viens de te raconter.
Messieurs, les réseaux sociaux.
Moi, justement, par rapport au président du Paris Saint-Germain, le message d'Alexis Nasser est incroyable. J'ai l'impression qu'il est même capable de devenir arbitre de tous les matchs du Paris Saint-Germain, devenir ministre des Sports et être à l'assistance vidéo pendant les matchs de Ligue des Champions.
Moi, je crois qu'il y a une stratégie qui se dessine là-dessus. C'est absolument impossible d'envoyer Nasser El Khelaïfi pour. Négocier avec Canal sans qu'il y ait quelque chose.
Mais la stratégie, c'est peut-être que c'est la moins mauvaise solution.
Mais avoir un petit peu que rien.
Mais non, mais je suis d'accord avec vous. Évidemment que le conflit d'intérêt paraît évident, mais peut-être que les dirigeants du football français, des clubs, se disent c'est l'homme de la situation pour se sortir d'une situation qui est extrêmement compliquée. Et attendez. Comme Philippe l'a rappelé, parce que derrière, il y a l'échange Media Pro.
Avec toutes les précautions qu'on a prises tout au long de cette émission et que je reprends encore une fois.
Et que tu fais bien souligner.
On parle de finir le championnat le 3 août. La reprise ne serait pas tentée. Ça a décalé, puisque je crois que c'était 15 août. Hein,
s'ils sont prêts physiquement, ils peuvent rejouer
des jeux et de l'euro.
Il y aura un mois de retard.
Okay. Un mois de retard, si tu finis le 3 août, tu reprends début septembre la saison d'après et tu sauves les meubles à tous les niveaux, tu finis celle-là.
Sauf que la saison d'après, c'est la saison de la Coupe du Monde.
Mais tu as des dates qui se libèrent avec la Coupe de la Ligue.
C'est qu'en décembre la Coupe du Monde. Il n'y a pas de Coupe de la Ligue. Ouais. Ils grignoteront sans doute sur la trêve hivernale.
Absolument.
Ils mettront deux journées de plus avec des matchs en semaine.
La Coupe de France.
Et ça se réglera.
Jouer vite. Ouais.
Ça se réglera très facilement. Le tout, bien sûr, encore une fois, si on peut tenir ce calendrier du 25 juin 3 août avec un déconfinement où, pour l'instant, on est au courant de rien. Mmh. Mais si c'est possible, c'est encore largement faisable, franchement.
Si on parlait un peu football.
Vous allez. Oui, mais football.
Mais oui, pas le tant football, que ça, finalement.
Il y a eu un match. Ouais, parce que vous allez nous parler de qui
on a loupé un match, Christian.
Vicente Lizarazu, je le cite parce qu'il a dit Thiago s'en va. J'ai trouvé ça très drôle.
Benzema Giroud, messieurs. Benzema Giroud. Alors, nouvel épisode enclenché sur Instagram football, cette semaine. Une phrase a mis le feu aux poudres. On ne confond pas la Formule 1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la Formule 1. Signé Karim Benzema à l'encontre d'Olivier Giroud. Pourquoi tant d'aigreur, Karim Benzema?
Ce qui est triste, c'est que
Stéphane Poel.
Ce qui est triste, c'est que l'histoire, on en parle depuis des mois, des années hein, ici de ces dossiers-là. C'est qu'il a répondu sur le terrain. Moi, c'est ça qui m'agace. Il a répondu vraiment sur le terrain, Benzema. Il a mis des buts, il a été efficace avec Real. Sa sortie quand il l'a fait. Même si on dit qu'on a sorti une phrase d'une
interview chose,
de 20 minutes. Cette phrase, elle est forcément, elle va être reprise et ça va foutre le bordel.
Excusez-moi, il est intelligent.
Il le sait, mais oui, qu'il est intelligent. Donc je trouve que c'est malvenu, malveillant. Et Dieu sait que j'aime beaucoup ce joueur, mais je pense que c'est pas nécessaire. Voilà,
parce que Benzema a reconnu plus loin qu'Olivier Giroud avait été utile en substance.
Bien sûr, il a dit du pire.
Je trouve ce qui est intéressant dans la sortie de Benzema, c'est le débat que sa phrase induit. Par ailleurs, je m'explique. Moi, j'ai vu s'affronter sur les forums, sur les réseaux. Ce qui m'amuse dans ça, c'est pas le conflit Benzema-Giroud, parce qu'en plus, factuellement, on peut pas donner complètement tort à Benzema si on parle de pure valeur footballistique. Mm-hmm. Mais le débat qui en a découlé, c'est est-ce que c'est plus important d'être champion du monde ou d'avoir gagné 4 Ligues des Champions? Et je trouve qu'on est dans le débat d'aujourd'hui, à savoir que, voilà, on va mettre à l'opposition, oui, mais Giroud, c'est peut-être un karting, mais il est champion du monde.
Moi, j'ai gagné 4 Ligues des Champions pour un titre de champion du monde.
Moi, le débat, il n'est pas là, il est que c'est un manque d'élégance.
Mais si, mais moi,
et c'est un grand joueur, ça manque de classe, point barre.
Moi, ce que je ne comprends pas, évidemment qu'on peut être d'accord sur les valeurs de jeu, etc., mais ce n'est pas la question, c'est que Karim Benzema ait des comptes à régler avec Mathieu Valbuena, dont acte. Mais là, avec Olivier Giroud, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à lui comme
parce
ça?
Parce qu'aujourd'hui, c'est les punchlines. Il l'a fait Germain la semaine d'avant.
Je suis d'accord. Et donc, parce qu'il l'a fait, c'est dans tout ça le côté entre guillemets positif. Ça veut dire qu'il n'en a pas rien à faire. Ça veut dire qu'en fait, ça révèle une extrême frustration. Ça me rappelle en fait Eric Cantona à une époque quand il n'a pas réussi en équipe de France la carrière qu'il a faite à Manchester United et tout ce qu'il a représenté. C'est la même chose. C'est-à-dire que et quelque part, c'est rassurant parce que ça veut dire que Karim Benzema,
il est pas indifférent,
il a gagné 4 Ligues des Champions,
mais il aime l'équipe de France.
Il se dit, ça me manquera toujours. Ça me manquera toujours parce que depuis qu'il est gamin, il s'est investi dans toutes les équipes de jeunes sous le maillot de l'équipe de France et qu'aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il manquera toujours ça. Donc il le fait très maladroitement.
Je pense que c'est son problème. C'est la culture de la punchline. Il est dans une cour de récréation. Il est grand, il est adulte. Il a des enfants. Il a des enfants maintenant.
On est les premiers à relayer les punchlines.
Moi, je mets au-delà
que sur les réseaux sociaux, malheureusement.
Je me ferai pas des amis. Et Dieu sait que c'est quelqu'un que j'admire comme tout le monde en France, mais je trouve que Zinedine Zidane a une responsabilité. Depuis qu'il est au Real Madrid, il aurait dû, lui, Zinedine Zidane, ce qu'il représente sous le maillot de l'équipe de France, il devrait faire en sorte que Karim Benzema, qui, rappelons-le,
c'est pas ça, il a 30 ans,
le mec, clubs les plus exigeants du monde, la carrière qu'a réalisée Karim Benzema au Real Madrid prouve que c'est un garçon d'une force et d'un professionnalisme absolu. S'il avait le même professionnalisme derrière les micros et devant les caméras, c'est un joueur qui aurait fait une autre carrière.
Neymar, Thiago Silva, pourquoi tant de provocations ou alors faux procès? Je résume, Neymar, on le voit partout sur Instagram, sur je ne sais où, avec le beach volley, avec ses amis, de distanciation sociale avec son fils également.
On rappelle que c'est les amis avec lesquels il est confiné déjà.
Son agence de communication est montée au créneau pour calmer le jeu. Thiago Silva, madame, fait ses courses dans les supermarchés. Là, il n'y a pas de souci.
Mais pendant ce temps-là, il n'y avait pas de papier cul.
Mais pendant ce temps-là, Thiago Silva négocie probablement son arrivée à Fluminense.
Voilà. Et surtout qu'il demandait depuis 3 mois. Alors on me dit, moi, sur les réseaux sociaux.
Provocation ou faux procès?
C'est-à-dire que ce n'est même pas de la provocation ni un faux procès. Je pense que c'est l'attitude. On en revient avec ce qu'on vient de dire il y a 5 minutes. Moi, je pense que, à sa décharge, je sais qu'à côté de moi, j'ai un grand défenseur de Neymar. Je parle de Neymar.
Il nous reste 1 minute 30.
Neymar, il a fait un don de 900 000 euros pour les hôpitaux, bravo, comme l'a fait Cristiano et compagnie. Il est capable de faire des choses comme ça, et il est capable aussi de se montrer en train de faire du volet. C'est de la provocation. C'est très con, excusez-moi.
Mais où est la provocation? Moi, je vois des vidéos toute la journée.
Tu demandes d'avoir une attitude responsable.
Et alors, il est responsable, il est confiné dans son maison.
À 7.
La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'être parti au Brésil.
C'est d'avoir une maison de 10 000 mètres carrés.
La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir quitté un pays
avant, juste avant le confinement, il a fait l'intelligent et il est parti au Brésil. Hein. Là, on aurait pu dire qu'il n'aurait pas dû partir. Parce qu'il... Mais une fois qu'il est parti, une fois qu'il est là-bas, il a tout à fait droit d'être dans sa maison et de se filmer. Mais moi, je vois des vidéos toute la journée de mecs qui se filment dans leur appart, qui font des marathons sur leur balcon. Tout le monde trouve ça formidable.
Ils sont pas sept à faire du volant.
Ils se filment de manière payée au monde.
Tu es le joueur le mieux payé au monde. Tu es une star mondiale. On a le droit d'avoir une attitude pareille.
Allez, on redescend en température, les amis. Tout le monde. David Ayello.
Tu étais confiné aussi, Stéphane.
Bon, juste Thiago Silva, ça fait des mois et des mois qu'il fait des pieds et des mains pour essayer de séduire les dirigeants du Paris Saint-Germain. À partir du moment où il ne voit rien revenir, il a une fin de carrière à gérer. Et si la fin de carrière, c'est Fluminense, c'est qu'il...
C'est prémédité son départ.
Qu'il y aille. Ben
oh, non, c'est pas prémédité. Match 100% interactif, monsieur. C'est terminé. C'est terminé. Les réseaux sociaux avec Baptiste Durieux.
Deux petits messages. Message de Johan. Quand je vois que Marquinhos et sa femme sont restés bien sagement et avec responsabilité à la maison, on voit aujourd'hui qui sont les vrais Parisiens. Deux salles, deux ambiances. Et puis évidemment sur Giroud et Benzema. Message de Pierrick. Ce n'est pas faire injure à Giroud que dire qu'il est moins bon que Benzema. Pas envie de faire la comparaison. Pas envie de faire le match entre 4 Ligues des Champions et une Coupe du Monde. Savoir qui est la Formule 1, le karting, la trottinette ou le skateboard. Benzema a été honnête, mais son honnêteté ne lui rend pas service. Comme d'habitude, lui et la communication. C'est comme Toulouse et les 3 points. Ça fonctionne.
Merci à vous tous, Eric Silvestro, Philippe Sanfourche, Stéphane Powels et David Aiello de votre participation. Merci à Baptiste Durieux pour les relais sur les médias sociaux. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. 18h30, 20h, c'était On fait le match. Demain, on fait le sport avec Eric. 19h30, 20h. Très bonne soirée à l'écoute de RTL.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.